L'évangile de Marc est au chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 13. Marc, Gospel of Mark, chapter 2, verse 13 through 17. Marc, chapitre 2, verset 13 à 17. Le thème de notre étude ce matin, c'est Jésus, l'ami des pécheurs. Ça tombe très bien avec le thème de Jésus, le Sauveur. Le Sauveur, l'ami des pécheurs. Marc, chapitre 2, verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Combien de fois on a vu Jésus, soit il va à la mer, soit il va au désert. Hein, il va vers la mer, il trouve la foule. Il va dans le désert, c'est pour être avec son père. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi !» Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et c'est ça le verset thème d'aujourd'hui, hein, puisque nous sommes dans l'évangile de Marc, et c'est pour voir ce qu'il nous dit concernant Jésus-Christ. Ce qui est extraordinaire dans ce récit, c'est qu'il nous dit que Jésus va vers la mer et que là, il y a une foule et que Jésus enseigne la foule et il ne nous dit rien sur ce qui se passe là. Marc n'est pas en train de s'intéresser sur... Parce que si c'était aujourd'hui, si on avait un journaliste d'aujourd'hui, eh bien, il serait en train de prendre des photos des gens qui sont guéris, de Jésus qui enseigne, et de combien il y avait de personnes, et qu'il y avait des enfants, puis il y avait des femmes, et il y avait des hommes, et il y avait des vieux, et il y a des vats aveugles, et il y avait toutes sortes de choses. C'est ça qu'un journaliste aujourd'hui, il aurait pris la caméra, il aurait capté cela. Mais Marc, c'est pas ça qu'il capte. Ce que lui voit, alors qu'il y a une foule d'un côté, et de nos jours, s'il y a la foule, c'est le succès, c'est une bonne chose. Alors qu'il y a la foule par là, Jésus y voit un homme, seul. Et un homme à qui personne ne parle, personne ne lui dit bonjour. Hein, les gens passent, presque ils ont envie de cracher par terre en passant à côté de lui. Et c'est cet homme-là que Jésus voit. Jésus voit Lévi. Lévi est appelé dans l'évangile de Matthieu, et aussi dans l'évangile de Luc, il est appelé Matthieu. Hein? Donc, ici, il est appelé Lévi, mais ailleurs, il est appelé Matthieu, c'est la même personne. Et ce que nous voulons voir ce matin, c'est l'appel de Jésus, Matthieu, comment il l'appelle, et aussi nous voulons voir l'attitude de Jésus par rapport au comportement et aux paroles des scribes et des pharisiens. Eux, ils représentent la religion officielle. Matthieu, il représente les gens rejetés, les publicains. Les pharisiens appellent les gens comme Matthieu, ils l'appellent les pécheurs, comme si eux, ils n'étaient pas des pécheurs. Nous devons faire attention comment on parle des gens. Hein, c'est pas la peine d'appeler les autres, ah ça c'est des pécheurs. Oui. N'oublie pas, toi tu en es un, hein. Pas la peine. On aime, dans notre monde, il y a tellement de mépris pour celui-ci ou pour celui-là, pour des raisons. Faisons attention dans le choix de nos mots. Et Jésus, il fait très attention. Donc, premièrement, l'appel de Lévi, hein, l'appel de Jésus, comment Jésus appelle Lévi, cet homme. Vous savez que Lévi va devenir, Matthieu va devenir un apôtre de Jésus-Christ. Lévi va devenir celui qui rédige un évangile. Ce sera certainement le dernier évangile qui est écrit, à peu près 10 à 15 ans après le départ de Jésus. Mais regardez le détail. Nous, si c'était un livre qu'on écrivait aujourd'hui, on écrirait très long sur comment Jésus l'a appelé, qu'est-ce qu'il faisait quand Jésus l'a appelé, comment il a répondu, ce qu'il a dit, comment ils se sont salués. On aurait fait un grand cas parce que c'est Saint Matthieu. Mais regardez, Marc, ce qu'il fait. Il dit, en passant, il vit un homme qui était à son bureau de péage, qui collectait les impôts. Et le récit est simple. Jésus lui dit, suis-moi. Et il dit, il se levait, il a suivi, et c'est terminé. Tout simplement. Et des fois, nos témoignages sont encore plus longs que ça. Vous avez peut-être entendu des témoignages de gens, et puis cette partie-là, il parle pendant 15-20 minutes. Là, c'était tout simple. Et lorsque je lis ce qu'écrit Matthieu lui-même de cette situation dans Matthieu chapitre 9, eh bien, c'est aussi bref. Et je lis Luc, le médecin, journaliste, celui qui est en train de faire le compte-rendu, eh bien, chez lui aussi, c'est très bref. C'est pas plus long. C'est exactement pareil. Jésus l'appelle, il se lève et il suit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il s'est levé et l'a suivi, il a continué à suivre jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est ça qui est important. Matthieu, c'est pas seulement ce qu'il a fait quand Jésus était là et quand Jésus l'a dit, viens, suis-moi. Mais c'est que Jésus était parti et puis il y a eu les épreuves, les difficultés. Mais Matthieu a été fidèle jusqu'à la fin de sa vie. On n'est pas sûr s'il est mort comme martyr ou pas. L'Église catholique dit qu'il est mort comme martyr. Les autres écrits ne confirment pas. On n'est pas sûr, puisqu'on sait qu'il a été fidèle jusqu'au bout. Et ça, c'est un modèle pour nous. Hein, oui. Quand Jésus m'a appelé, quand j'ai compris que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, et j'ai dit, oui, tu es mon sauveur. La question, c'est pas seulement ça, mais c'est ensuite de continuer jusqu'au bout. Hein, on peut chanter jusqu'au bout, je veux te suivre, par la foi et malgré tout. C'est facile de chanter. C'est plus difficile déjà de faire toute la semaine. De dimanche jusqu'à samedi soir, minuit, c'est pas facile. Je te suis jusqu'au bout. Et semaine après semaine. Nous savons que Matthieu était un collecteur d'impôts. C'est-à-dire, à l'époque, l'empereur de Rome, il avait besoin de recevoir de l'argent. Et un collecteur d'impôts, ce n'est pas seulement qu'il collectait les impôts, mais c'est que c'était souvent l'opportunité pour lui de demander un peu plus. Et ce qui est en plus, il met dans sa poche. Et donc, les collecteurs d'impôts, en général, ils s'en sortaient assez bien. Bon, c'était un poste qui rapportait beaucoup. Donc, certainement qu'il a acheté la place, il a acheté le poste, mais ça rapportait. Et donc, les publicains, les collecteurs d'impôts, étaient mal vus, parce que non seulement ils collectaient l'impôt pour l'empereur, mais en plus, ils les chargeaient, ils gagnaient sur leur dos. Et donc, ils étaient considérés comme traîtres de la nation. Et donc, on ne les aimait pas. On parlait en mal d'eux. On les appelait les gens de mauvaise vie. Mais c'était un moyen pour quelqu'un, pour un jeune, hein, on a encore ce problème de nos jours. Comment est-ce qu'il peut gagner de l'argent? Ben, il y a des moyens honnêtes et il y a des moyens qui sont plus rapides, qui ne sont pas honnêtes. Et c'est une tentation. Matthieu, imaginez-le, hein, un jeune qui grandit à la même époque que Jésus et qui se dit, ça sert à quoi de rester religieux, de continuer la synagogue? Il faut de l'argent. Et peut-être c'était le genre, hein, et je vais le prendre un peu dans ce sens-là aujourd'hui. C'était quelqu'un qui, dans sa jeunesse, il a dit, moi, qu'est-ce que ça rapporte d'aller à la synagogue tous les samedis? Ça ne porte rien. Mais tandis que si là, je prends ce poste, j'ai de l'argent, et avec l'argent, on peut vivre. Et il a fait un choix. Et c'est chaque jeune de nos jours, il est confronté à ce choix aussi. Est-ce que rester fidèle à Dieu, est-ce que c'est vraiment, ça vaut la peine? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vivre et s'en sortir? Et la tentation est là. Et Matthieu, c'est un de ces jeunes-là. Mais ce jour-là, Jésus, en passant à côté de Matthieu, si on regardait son poste, on regardait sa fréquentation, on lui dit ça, c'est un homme, il faut éviter. Mais Jésus a pu voir chez cet homme ce que personne d'autre a vu. Peut-être qu'il se connaissait, parce que certainement que Matthieu était de Capernaum, et certainement qu'il collectait l'impôt sur la pêche, hein, sur les poissons, il faisait payer une taxe. Et peut-être qu'il se connaissait. Et il voyait Jésus évoluer, il voyait la vie de Jésus, il voyait, peut-être il avait déjà, s'il était collecteur de l'impôt sur les poissons, il connaissait bien Pierre et Jean et Jacques et André, il les connaissait bien. Et il est là. Vous savez, je pense comme ça parce qu'il y avait un autre publicain qu'on connaît bien aussi, Zachée. Zachée, c'était un homme qui... Il a entendu parler de Jésus, il a dit, oh, j'aimerais bien le voir. Alors, j'entends des choses. Bon, il avait un problème qu'il était un petit, mais sinon, il voulait voir. Et Jésus a su qu'il voulait le voir. Et Jésus est passé là où il était. Il lui a dit, écoute, je viens aujourd'hui dans ta maison. C'est-à-dire, Jésus sait qui le cherche. Et Jésus se tourne vers lui. Celui qui cherche, trouve. Matthieu, peut-être qu'il n'osait pas. Peut-être que lui, dans son cœur, il dit, oh, j'ai fait une bêtise quand j'étais jeune, j'ai fait ça, et puis maintenant, je ne peux plus aller prier, je ne peux plus, Dieu, il ne veut plus de moi. Parce que les gens de la religion lui avaient dit que quelqu'un qui fait comme ça, ça y est, c'est raté pour la vie. Et vous savez, ça existe encore aujourd'hui, les gens, ils sont tellement religieux, hein, ils sont tellement bien, que les gens du monde, ils n'osent même pas rentrer à l'église. Pourquoi il dit, parce que je vais être mal reçu, ils vont me regarder comme ça. Et c'est sûr qu'il vient pour voler. Mais vous savez, avec quelque chose comme ça, il ne reste pas longtemps. Hein. Si dès qu'il rentre, tout le monde en rapproche les sacs et puis là, les poches, ben, il ne reste pas. Hein. Mais pour moi, Matthieu, il représente ce genre de catégorie de personnes. Ces gens qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être bien reçus. Et Jésus, lui, il ne regarde pas ce qu'on est, il regarde ce qu'il peut faire de nous, ce qu'il pourra faire de nous un jour. Il n'y a aucun apôtre qui aurait osé évangéliser l'apôtre Paul. Mais Jésus l'a arrêté, il lui a parlé. Et après cela, bien, on remercie Dieu pour l'apôtre Paul de nos jours. Vous savez, et si Jésus pense comme ça, nous devons penser comme lui. On ne regarde pas, on dit, celui-là, oh, regarde sa coupe, regarde comment il est habillé, ses fringues, ça. Oh. Non, non. Le Seigneur peut faire ce qu'il a à faire avec n'importe qui. Et donc, ne regardons ni l'habit, ni l'origine, ni le comportement, ni la manière qu'il marche. Nous, on vient du 93. On peut repérer quelqu'un du 93 avec la manière dont il marche. Ouais, là-bas, on marche d'une certaine manière. Mais ce n'est pas pour ça. L'évangile, c'est pour lui. Et quand il rentre dans l'église, s'il arrive avec sa marche, c'est pas grave. Le Seigneur va lui apprendre une nouvelle marche, la marche par la foi. Et il peut faire une œuvre. Alors, pour nous aussi, ayons... Hein, pourquoi est-ce que Matthieu, peut-être dans son cœur, il dit « Oh, j'ai fait une bêtise, maintenant je ne peux plus suivre Jésus. » Et quand Jésus lui a dit « Non, non, viens !» Ah ben, il demandait que ça. Il se levait, il avait un cœur préparé, tout comme Zachée. Il avait le cœur préparé. Il était prêt à venir. C'était extraordinaire ce que Zachée, il a dit dans la journée, il a dit « Moi, la moitié de mon bien, je le distribue aux pauvres, et si j'ai volé à quelqu'un, je lui donne quatre fois ce que je lui ai volé. » Ça, c'était en moins de 24 heures. Vous vous souvenez du jeune homme riche qui a dit « Moi, j'ai gardé tous les commandements de Dieu, moi, j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours ceci, j'ai tous les commandements. » Mais quand Jésus lui a dit « Donne ton argent aux pauvres », il était tout triste et il n'a pas suivi. Qui était celui qui est le plus préparé, le plus attaché à l'argent? C'était là, dans ce cas-là, c'était le jeune homme qui était fidèle à la religion. Tandis que celui qui était considéré comme le traître, lui, était prêt à lâcher l'argent. Il avait goûté que l'argent ne satisfait pas. Peut-être on peut s'acheter des maisons, mais on ne s'achète pas la paix et la joie. Il nous dit que Jésus l'a vu et Jésus l'a invité à le suivre et il s'est levé et il a suivi. L'évangile de Luc ajoute quelques petits mots. Dans Luc 5, 28, il nous dit « Il laissa tout ». On peut le comprendre, ça veut dire le petit bureau là, avec la caisse, avec les reçus, avec tout ça, il a laissé ça. Comme quand Jésus a appelé André et Pierre et tout ça, ils ont laissé les filets, ils ont laissé leur père, ils ont laissé les ouvriers et ils ont suivi. Eh bien, Matthieu, lui aussi, il s'est levé, il a laissé la caisse, il a laissé tout. Et il a commencé à suivre Jésus, il n'est plus jamais retourné à cette caisse-là. Laissez tout. Tout ce qui ne correspond pas, tout le bagage qui peut nous ralentir dans notre marche avec le Seigneur, il faut le lâcher. Tout ce qui pourrait nous ralentir pour qu'on puisse répondre à l'appel. Il y a un jeune missionnaire qui est mort pour la cause de Christ dans dans l'Amérique centrale, dans l'état d'Équateur. Et avant de mourir, il avait écrit dans son cahier, il avait écrit « N'est pas fou, celui qui laisse ce qu'il ne peut garder afin de gagner ce qu'il ne peut perdre. » Dans un sens, il est en train de dire « J'ai fait un choix. Je suis prêt à perdre ce que je ne pourrais pas emporter avec moi dans le ciel, hein, après la mort. Je suis prêt à perdre ça pour gagner ce que je ne perdrai jamais. » Il a dit « Il n'est pas fou. Celui qui est prêt à perdre ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Ça, c'était Jim Elliot, ce martyr dans l'état d'Équateur. Jésus, comme nous l'avons dit, il ne voit pas ce que nous sommes, parce que nous sommes tous des pécheurs. Il n'est pas dérangé par comment les gens nous voient, comment les gens nous perçoivent. Ce que les gens disent de nous, ce n'est pas important. Ils n'écoutent pas ça non plus. Soyons rassurés. Il regarde et il dit, si tu me laisses faire, je peux faire de grandes choses avec ta vie. Parce qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui sommes dignes de quoi que ce soit. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Regardez avec moi dans 1 Timothée, chapitre 1. C'est l'apôtre Paul qui explique un peu cette chose à Timothée, le jeune homme, pour l'encourager. Parce que Timothée, c'est un jeune aussi, hein, et certainement que quand il a rencontré la difficulté, est-ce que ça vaut la peine? 1 Timothée, chapitre 1, et les versets 12 à 16. 1 Timothée 1, 12 à 16. Alors, Paul écrit ces choses pour encourager Timothée. Regardez comment il dit. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Surabondé. Pas seulement abondé, surabondé. Il a dit qu'il en fallait beaucoup. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité ou sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il a dit, moi, je remercie Dieu que quand il m'a vu, j'étais un pécheur. Il dit le plus grand des pécheurs, parce que je faisais semblant d'être très religieux et en fait j'étais un vilain. Il a dit, et Dieu m'a vu, il m'a fait grâce, il m'a sauvé, il me donne la capacité de le servir. Il dit, en plein milieu de sa lettre, il commence la louange. Il ne pouvait pas se retenir, parce que c'est chose extraordinaire. Et Dieu peut le faire pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dieu l'a fait avec Matthieu, il peut le faire avec n'importe lequel d'entre nous. Voyons aussi maintenant l'attitude des scribes et des pharisiens. Dans l'évangile de Marc, on revient, il nous dit que quelques jours plus tard, Jésus se trouve dans la maison, peut-être quelques jours plus tard dans la journée, je ne sais pas, mais il se trouve dans la maison de Matthieu, comme pour Zachée, hein. Il est allé dans la maison de Zachée, là il va dans la maison de Matthieu, et il va chez lui pour manger. Et dès que Jésus est dans la maison et en train de manger là, et bien tout d'un coup il y a du monde qui vient. Et le monde qui vient chez Lévi ou Matthieu, c'est pas le monde qui venait dans la maison à Capernaum, ce n'est pas les gens qui sont dans la synagogue. C'est les gens qu'on leur interdisait d'aller ailleurs. Mais quand ils ont vu Jésus chez Matthieu, eh bien, ils se sentaient à l'aise de venir. C'est les gens de mauvaise vie qui viennent. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » L'invitation de Jésus, elle est générale. Et remarquez que ce n'est pas Jésus qui va chez eux, c'est eux qui viennent vers Jésus. Parce que dans Psaume chapitre 1, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il dit, ne va pas chercher la compagnie des gens, parce qu'après tu vas devenir comme eux. Mais là, Jésus s'est mis dans un lieu où les pécheurs étaient prêts à venir vers lui. Pensez aux gens qui passent devant là. Je me mets ici, il y en a combien qui vont rentrer? Je je me mets dans le café à côté, il y en a combien qui vont me parler ? Une grande différence. Après tout, Jésus, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, et non seulement est-ce qu'il est venu sur la terre, marcher sur la terre, déjà c'était quelque chose, mais en plus, il était prêt à s'asseoir dans la maison d'un publicain pour que les pécheurs se sentent bienvenus. Et parfois, nous devons nous mettre dans une situation, ce n'est pas notre milieu, ce n'est pas parce qu'on cherche à faire partie de ce milieu-là, hein, mais c'est pour qu'eux soient à l'aise de venir vers nous. Et c'est important pour nous, non pas, je ne dis pas, aller dans les boîtes de nuit, comme ça vous pourrez parler aux pêcheurs. Non, mais mettez-vous là où les pêcheurs seront à l'aise de venir vous voir, vous parler. Et c'est ce que fait Jésus. Parce que c'était le seul moyen pour eux d'entendre sa voix et d'entendre son message. Et nous devons parfois chercher à nous mettre dans une situation, ce n'est pas le plus confortable, mais pour que des personnes qui n'entendraient pas autrement entendent notre voix. Vous savez, ces scribes et les pharisiens, on peut les critiquer, mais ils avaient créé tellement de règles, ils avaient toutes sortes de règles, et puis eux suivaient les règles que eux ont inventées. C'est-à-dire de pas trop marcher le jour du sabbat, pas ceci, prier tant de fois, jeûner tant de fois par semaine. Ils avaient fait toutes sortes de choses et ils gardaient leurs règles. Et parce qu'ils gardaient leurs règles, eh bien, ils étaient très bien. Et nous devons faire attention, parce que cela, c'est très vite de critiquer ces gens-là. Il y en a d'autres aujourd'hui autrement, hein. On crée des règles pour déterminer qui est bien. Hein, si tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, tu t'habilles de cette manière-là, et tu mets un voile de cette manière-là, et si tu fais ceci, tu fais... On dit, ça c'est des chrétiens qui sont très bien. Mais par ce légalisme, on peut créer de l'hypocrisie. Et Dieu n'est pas favorable au légalisme qui provoque et qui produit l'hypocrisie. Mais c'est pas parce qu'on fuit le légalisme qu'il ne faut pas rechercher la sainteté. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est pas le légalisme des scribes et les pharisiens, Jésus l'a condamné. Mais en même temps, il nous a encouragés à vivre la sainteté, la pureté. Et ça, la pureté et la sainteté, c'est dans toute notre vie, hein, notre langage, notre manière d'agir, nos valeurs, notre apparence, nos réactions, tout ça, ça doit être comme Jésus. Est-ce que les gens qui nous fréquentent, est-ce que rien qu'en nous regardant, est-ce qu'ils pourraient savoir que nous sommes chrétiens ? S'ils avaient une vidéo où il n'y avait pas le son, il n'y avait que ce qu'on voit, est-ce qu'ils pourraient croire qu'on est chrétien ? Rien qu'en voyant les images, sans entendre les paroles. Et nous devons vivre, hein, on regarde certains gens, on dit, ben ça c'est des musulmans, ça se voit. Ou ça c'est des juifs, ça se voit. Ça c'est un prêtre, ça se voit. Et si je suis chrétien, est-ce que ça se voit ? C'est pas qu'on demande à être bizarre, mais est-ce qu'il y a un comportement, une vie de sainteté ? Pas de légalisme, mais de sainteté. Jésus a mangé avec les gens que les autres appelaient des pécheurs, alors que tous étaient pécheurs. Jésus dit une fois aux pharisiens, il leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Tant que je pense que je suis très bien, non, nous on est l'église baptiste Fréjus, nous on est attaché à la parole, nous on est bien. Et bien tant qu'on pense comme ça, et bien on continue dans notre péché. Nos défauts, on les garde. Mais si on essaie de voir comment Dieu nous voit, et ce qu'ils pensent de ce que je fais, pas seulement dimanche matin, mais tous les jours de la semaine, quand je suis au travail, comme quand je suis à la maison avec seulement la famille, parce que des fois, avec la famille, on se laisse des, donne des libertés qu'on ne fait pas ailleurs. Et, mais si, c'est là où il dit, c'est là où je veux. Jésus a donné une leçon à ce niveau dans le sermon sur la montagne. Vous savez, quand il a parlé de... Il a dit, tu vas voir ton frère et tu regardes et tu vois qu'il y a quelque chose dans son œil. Et tu lui dis, écoute, laisse-moi, je vais enlever ça. Il dit, non, non, ne touche pas à son œil. Déjà, enlève le gros bloc qui est dans ton œil et après, tu sauras comment enlever. Parce qu'il dit, on voit toujours mieux chez les autres et on ne voit pas bien chez soi. Il a dit, tu t'entraînes sur ton œil et après tu vas voir l'autre. Oui. Nous devons faire très attention. Parce qu'il dit dans ce même Matthieu chapitre 7, il dit, parce que vous serez mesurés avec la mesure dont vous mesurez les autres et vous serez jugés du jugement dont vous jugez les autres. Vous lui dites, ça c'est pas bien. Il a dit, ah tu lui as dit que c'est pas bien. Eh bien je te juge selon ta règle. Vous savez, on est toujours dit, ouais, ouais, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Puis après, nous, à l'autre côté, on le fait quand même. Ils disent, non, non, tu seras jugé par le jugement dont tu juges les autres. Et nous devons faire très attention. Parfois, on est très strict avec les autres sur certains points. Et puis, mais nous, on s'excuse beaucoup de choses. Le Seigneur dit, attention. Commence par regarder à celui que tu vois dans le miroir, et après tu pourras t'occuper de celui qui se trouve à côté de toi. Et vous savez, en général, quand on se regarde bien dans le miroir, on est plus patient avec les autres, parce qu'on se rend compte que finalement, on a le même problème que lui. On a vu l'appel de Jésus pour Lévi, on a vu l'attitude des scribes et des pharisiens. Et puis nous voulons voir une précision que fait Jésus. La précision de Jésus, il fait une précision sur un point. Et là, dans le dernier verset que nous avons lu, donc le verset 17, Jésus répond aux pharisiens. Parce qu'il les a entendus dire aux disciples, « Tu as vu, Jésus, il mange avec les gens de mauvaise vie, vous trouvez cela normal ?» Et les disciples, ils ne savent pas trop quoi faire. Peut-être eux-mêmes, ils étaient gênés, parce que c'est la première fois qu'ils sont avec ces gens-là. Ils étaient gênés, ils n'ont rien dit. Mais Jésus a entendu. Jésus entend. Vous savez, les gens disent sur vous, Jésus entend. Vous n'avez pas besoin de répondre, Jésus a déjà entendu. Et s'il lui a entendu, c'est tout ce qu'il faut. Et Jésus a entendu, il a répondu. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. Moi, j'aime beaucoup Jésus parce que quand il répond, mais il répond sans élever la voix, sans dire des choses méchantes, mais il répond une petite phrase et les autres, ils n'ont plus rien à dire. On le voit ça plusieurs fois. Hein, et là, Jésus dit, il les entend, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin du médecin, mais les malades. Sur quel pharisien il va pas être d'accord avec ça. Un médecin, c'est pour soigner qui? C'est les malades, c'est pas ceux qui se portent en bonne santé. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Eux, dans leur tête, ces gens-là, c'est des malades. Il dit alors, il n'y a rien de plus normal que je sois avec eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Mais en même temps, et c'est Matthieu qui fait ressortir cela, et il cite, c'est-à-dire c'est Jésus qui cite cette parole de Osée, et c'est Matthieu qui reprend cela, où Jésus dit « Allez, apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Il dit « Moi je préfère que les gens soient généreux, patient, ouvert avec les pécheurs, plutôt qu'on m'offre plein de sacrifices et de louanges. » Il y a des chrétiens comme ça aussi de nos jours. Un dimanche matin, en avant les louanges, et ça pète la joie et tout cela. Et puis en semaine, alors là, il ne connaît personne. Jésus l'a dit, allez apprenez, c'est ce qu'il a dit à ce scribe. Il est allez apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Il dit d'abord, je veux voir comment tu te comportes vis-à-vis de ton frère, après viens me voir et me dire combien tu m'aimes. Mais d'abord, va montrer de l'amour à ton prochain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du roi Saül. Dieu lui avait demandé de faire quelque chose. Et puis après, Samuel vient le voir et lui dit, mais pourquoi est-ce que j'entends le bruit des bêlements et du beuglement des vaches et du bêlement des brebis? D'où ça vient, ça? Il dit, non, je sais qu'on devait les tuer, mais on les a gardés, c'est pour les offrir à Dieu. Et Samuel répond et dit, Dieu prend plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Il dit, Dieu préfère que tu sois obéissant, que tu aies là le louange des lèvres, l'offrande des lèvres. Il dit, vous savez, ce que Dieu veut, c'est cette attitude que tu as vis-à-vis des autres, ton comportement vis-à-vis des autres, je préfère ça, je préfère que tu sois obéissant à mes commandements, que tu me dises et que tu dises à tout le monde combien tu m'aimes. Il dit ça c'est un peu comme toutes ces petites cartes qu'on fait pour la fête des mères quand on est en école primaire. On a été un voyou pénible pour la maman toute l'année. Après, on lui amène une carte et on lui dit, « Maman, je t'aime beaucoup. » Et il dit, « Titi m'aime beaucoup, garde la carte et puis sois obéissant toute l'année. » La maman, elle va trouver ça. Hein. Oui, mais Dieu, il dit la même chose. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ne me dites pas combien, moi je verrai combien vous m'aimez. Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce qu'il a dit dans la chambre haute avant d'être crucifié. Vous savez, vous connaissez la parabole du pharisien et du publicain qui prie. Le pharisien dit, Seigneur, oh, je te remercie parce que moi je jeûne deux fois par semaine, je te fais la dîme, même de la menthe, des brins de menthe, sur 10 brins de menthe, je te donne un brin de menthe. Hein, pour nous, ce serait comme le persil, hein, je coupe le persil et j'en donne un pour le Seigneur. Il dit, je te donne tout, je ne suis pas comme ce publicain là à côté. Moi, et puis le publicain à côté qui dit, Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi et pitié de moi. Et Jésus dit, c'est lequel que Dieu a entendu? Il n'a rien entendu de l'autre qui est en train de parler pour que les gens l'entendent. Mais il a entendu la prière du publicain qui n'a pas dit grand-chose. Vous savez, quand c'est arrivé à dernier jour, dernières heures de la vie de Christ, qui sont ceux qui ont crucifié Christ? Les pharisiens. Et quel est celui qui a été le premier à rencontrer Jésus dans le paradis? Le brigand. Vous savez, il est important pour nous de comprendre la pensée de Jésus-Christ et ensuite de l'adopter et de la vivre. Et que le Seigneur nous aide à penser comme Christ. Il est notre sauveur. Il nous a délivrés des péchés. Il nous a libérés du pouvoir de Satan. Et maintenant, il te dit, suis-moi. Mais faut le suivre. Et un disciple, c'est celui qui vit comme le maître. Pas seulement celui qui dit, moi, je suis de telle école. Non, non, tu vis comme le maître. Que le Seigneur nous aide à être comme Jésus, l'ami des pécheurs. Les gens sont pénibles, les gens sont... Je reste doux. Jésus a toujours été doux. Il n'a été dur qu'avec les pharisiens, les hypocrites. Mais il a été doux avec n'importe quel autre pécheur qu'il a rencontré. Même le brigand qui s'était moqué de lui 2 heures avant, mais quand le brigand s'est tourné vers lui et dit « Souviens-toi de moi », il a dit « On se donne rendez-vous dans le paradis. Aujourd'hui. » Oh, que nous puissions avoir cette attitude de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants à toi pour ce que tu représentes. Seigneur, il est facile pour nous de dire que nous sommes chrétiens, que nous sommes meilleurs que d'autres autour de nous, parce que nous allons à l'église, parce que nous te croyons, parce que nous connaissons tes cantiques. Mais Seigneur, est-ce que nous sommes vraiment meilleurs? Et nous avons besoin de nous regarder bien fort dans le miroir que tu nous présentes, le miroir de la parole, et de nous évaluer nous-mêmes et de voir si nous sommes. Et Seigneur aussi, que notre attitude soit telle que nous n'empêchons pas les pécheurs, les gens dont on critique la vie, qu'on ne les empêche pas de venir à Christ à cause de notre comportement et notre attitude. Seigneur, nous savons que Jésus aurait été vers eux et nous voulons être ouverts pour aller vers eux afin de les amener à toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Amen.